Bonjour à tous. Nous voulons écouter la parole que Paul a adressée aux Éphésiens et la prendre pour nous ce matin. Il dit « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Avec tout ce que nous avons entendu, chanté, dit ce matin, imiter Dieu, ça semble presque une agression, ça semble presque un mot fort. Moi-même, j'avais ce verset dans ma lecture du jour, même si je savais déjà de quoi je voulais parler aujourd'hui. Elle était dans ma lecture du jour, donc je l'ai noté parce que c'était bien ça. Mais en le relisant ce matin, je me dis, imiter Dieu, c'est quand même une parole très forte que Paul nous donne et que Dieu nous donne aussi ce matin. En fait, ça me choque presque parce que imiter Dieu, comment est-ce que c'est imaginable? S'il avait dit imiter Jésus, le Seigneur Jésus, oui, d'accord. Et ailleurs, il nous demande aussi de l'imiter lui, Paul. Et là, déjà, on réfléchit, on regarde, c'est pas évident. Mais, et je me pose la question, qui suis-je pour vouloir imiter Dieu? Mais au risque de vous frustrer, je ne vais pas développer plus, si ce n'est que par cette simple parole. Je vous propose comme seule réponse d'écouter la deuxième partie de ce verset, qui nous dit justement qui nous sommes. Écoutez bien. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et je vous propose pendant quelques minutes de simplement écouter cette parole, de la prendre en nous, dans notre intellect, nous le savons, et même nous le savons plus que cela, mais nous voulons méditer un peu tout ce que ça représente pour nous. Et pour le faire, dans ma longue introduction, qui sera la moitié de mon message, j'aimerais qu'on reprenne cet événement extraordinaire au début qui a introduit le ministère du Seigneur Jésus. Il s'agit en fait du baptême de Jésus. C'est un événement qui est raconté par les trois évangiles des synoptiques. Et surtout, il y a ce miracle qui a lieu au moment du baptême. Je l'appelle ça un miracle parce que c'est quelque chose d'extraordinaire puisque le ciel s'est ouvert et qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Je vous propose de lire dans un premier temps dans l'évangile de Matthieu et après nous lirons aussi dans l'évangile de Marc ou Luc. On voit ici qu'au moment du baptême, les cieux s'ouvrent et il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Je profite juste ici sur ce transparent de vous rappeler deux autres versets où la même chose est exprimée. Il y a d'une part au chapitre 12, c'est une citation d'Ésaïe 43, versets 1 à 4. Et comme souvent les citations dans le Nouveau Testament, ils sont interprétés, d'accord? Et ici il est dit, « Voici mon serviteur, et c'est le Seigneur Jésus, que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, et aux nations il fera connaître le jugement. » Et la troisième fois où cette parole, et cette fois-ci c'est de nouveau le ciel qui s'ouvre et Dieu qui parle, c'est au moment de l'événement qu'on appelle la transfiguration, lorsque Jésus, avec très peu de disciples, est sur la montagne, et il est dit ceci, « Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » On a là, dans cette parole, une déclaration publique que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussi une déclaration de la nature, de la relation entre le Père et le Fils, c'est nécessairement le Père qui parle, c'est le Fils bien-aimé. Jean 3,16, c'est le Fils unique. Et vous voyez que c'est un mot, il n'y a pas de mot plus fort pour exprimer l'amour entre deux personnes, le mot bien-aimé. C'est l'amour suprême qui lie le Père et le Fils. Et l'apôtre Pierre, tu peux le mettre, nous dit que par ses paroles, Dieu le Père, depuis la gloire magnifique, le Père donne à son Fils l'honneur et la gloire en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Donc, un premier point, c'est que c'est une déclaration pour que nous tous, nous l'entendions, et c'est Dieu qui rend témoignage à son Fils, qu'il est bien celui qui est envoyé, et il nous révèle vraiment cette nature entre les deux. Mais je vous propose de le relire encore une fois, mais cette fois-ci dans l'évangile de Marc ou de Luc, j'ai choisi celui de Luc. Ici, on nous donne un peu plus de précision. Donc Jésus vient se faire baptiser auprès de Jean, volontairement, parce qu'il n'en avait pas besoin. Jean a prêché le baptême de repentance, mais il a approuvé le message de Jean, qui annonçait justement la venue du Seigneur Jésus. Et après le baptême, Jésus prie, Jésus est en prière, et là, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur Jésus, donc sous une forme corporelle, comme une colombe, et la voix se fait entendre du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et Jésus est venu ici se faire baptiser dans un acte passif de soumission, et il va repartir, c'est dit au chapitre 4, conduit par l'Esprit et rempli de l'Esprit et avec la parole du Père. Mais vous voyez qu'ici, c'est aussi une parole qui est donnée personnellement à Jésus. « Toi, tu es. Je trouve ma joie en toi. » Et on peut regarder, si on avance un peu, encore, voilà. Vous voyez à quel point c'est personnel. Il n'y a presque que des pronoms personnels dans cette courte phrase. C'est une phrase très intime qui nous révèle la relation entre le Père et le Fils. Le Père assure son Fils de son amour absolu sur la valeur infinie de son Fils à ses yeux. « Tu es mon bien-aimé, tu fais ma joie. » Le Père affirme à son Fils son identité. Il lui dit bien qui il est. Et il le dit d'une manière très forte, très personnelle, mais heureusement, nous tous, nous l'avons lu. Ceux qui étaient là l'ont entendu et nous le lisons. Et je dirais que pour nous, qui avons des difficultés avec la notion de Trinité, nous en avons ici une expression magnifique. L'unicité de Dieu est illustrée par ce lien exprimé entre le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Et donc c'est cette parole qui a équipé, en parallèle avec l'Esprit, parce que Jésus va être rempli de l'Esprit à ce moment-là, cette parole a équipé Jésus pour le reste de sa mission sur terre, pour tout son ministère public. Et pour preuve, je vous propose de repenser un instant à l'événement qui suit celui-ci, c'est-à-dire au chapitre 4, les premiers versets, vous pouvez les voir ici. C'est que Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Donc juste après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit et de la parole que son Père lui a donnée, il est tenté 40 jours dans le désert. Et pensons un instant à la nature de ces tentations, qui cherchent en fait à le détourner de son identité spirituelle. En fait, le diable essaie de lui faire croire qu'il était quelqu'un d'autre. Le diable va lui dire « Tu es celui qui peut changer cette pierre en pain ». Il va lui dire « Tu es celui qui peut te jeter du haut du temple et sans risque ». Le diable va lui dire « Tu es celui qui peut soumettre les autres à ton pouvoir ». Et Jésus va répondre trois fois non à chacune de ces tentations. Et pourquoi il répond non ? Parce qu'il sait qu'il est le bien-aimé de Dieu, le Fils bien-aimé, et ça lui donne son identité, sa sécurité, et il ne va pas suivre ce que la voix du diable. Et pendant son ministère, quand on y pense, il a des moments été adulé, et beaucoup d'autres moments où il a été méprisé, rejeté, mais jusqu'au bout, il a su vivre, dire que les autres peuvent m'abandonner, mais mon Père ne me laissera pas seul, parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Et je crois que cette expression, on peut aussi se l'approprier. Si nous sommes convertis, si nous croyons que Jésus est le sauveur de notre vie, si nous sommes repentis, avons reçu Jésus dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons des enfants bien-aimés de Dieu. Je crois que nous pouvons aussi dire « Je suis l'enfant bien-aimé du Seigneur ». C'est ce que Paul nous invite à faire, à le réaliser pour que nous puissions imiter les voies de Dieu. Donc je suis en train de dire que cette expression s'applique à nous. Ce que le Père a dit à son Fils unique, Jésus, il le dit à nous aussi. Je crois que nous aussi, pour servir le Seigneur, nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Christ. Comment entendre la voix du Père qui nous dit « Tu es mon ou ma bien-aimé » ? Dieu pourrait le faire en déchirant les cieux et en nous parlant par un grand miracle. Et je crois qu'il le fait pour l'un ou l'autre. Mais je pense que la voix plus habituelle que le Seigneur utilise, c'est nos temps de prière, nos temps de méditation personnelle de la parole. C'est là que nous pouvons entendre sa voix. Lorsque nous faisons silence, nous mettons de côté toutes les autres voix. Nous pouvons entendre au fond de notre cœur cette voix claire qui nous chuchote ou qui nous crie « Tu es mon bien-aimé ». Et je suis arrivé à vous parler de cela ce matin, parce que j'essaye de mettre en pratique mon message d'il y a un mois. On avait parlé de méditer la parole de Dieu entièrement avec le psaume 119. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je n'ai pas réussi à l'apprendre par cœur, parce que c'est trop difficile pour moi. Mais j'ai pris du temps pour continuer à méditer les premiers versets. Et alors qu'il y a des endroits un peu difficiles, je suis resté au verset 6, pour vous dire, où il dit que « Seigneur, affermis mon cœur pour que je ne sois pas humilié quand je contemple tes volontés. » Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais en passant du temps dans la méditation, je me suis souvenu de quelque chose, d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle « Le discernement ». Je trouvais ça dans la bibliothèque municipale de Belleville où j'étais en vacances. C'est un livre de Henri Nouwen, et comme j'avais déjà noté le nom de cet auteur, ben je me suis dit, je vais lire ce livre. Et il m'a fait réfléchir, etc. Et donc je suis revenu à cela, Et je me suis dit, je vais aussi en profiter parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La vie du bien-aimé ». Et ce titre m'avait intéressé, donc je me suis dit, je vais le méditer pour vous, avec vous. Et en fait, vous voyez, je l'ai mis ici pour vous le recommander. Mais en fait, on va faire une petite parenthèse, je ne vais pas le recommander comme ça. Je vais vous faire une autre recommandation, d'abord. C'est parenthèse dans la prédication, d'accord ? C'est pas le Seigneur qui me demande de dire ça, là, tout de suite. Mais c'est en cherchant ce livre, c'est ça qui m'a fait penser à ça. C'est que je voulais voir s'il existe en français. Donc vous voyez déjà qu'il a un autre titre. On reconnaît pas du tout l'idée, l'être à un ami sur la vie spirituelle. Ça vaut ce que ça vaut comme titre, mais ça ne m'aide pas sur ce que c'est. Et ensuite, j'ai vu qu'il était à 40 euros. Voilà. Donc mon conseil non biblique, etc., si vous le pouvez... Et vous allez peut-être me haïr pour cela, de dire ça, mais je vais le dire. Apprenez l'anglais ou l'allemand. Et si vous pouvez, et profitez d'un accès moins cher à ces ouvrages. Mais quand même, cette recommandation, je vais quand même préciser l'idée, un témoignage personnel. Quand j'avais 16 ans, et c'était je venais juste de me convertir, à ma première retraite spirituelle avec un frère qui s'appelle Bernard Gressel, qui est de mon village, il nous a dit, et je l'ai retenu, il a dit, apprends, il m'a dit personnellement en fait, apprends l'anglais, simplement, c'est la raison suffisante pour l'apprendre, c'est pour avoir accès à la littérature chrétienne qu'on n'a pas encore en français. D'accord ? Et j'ai suivi ce conseil. Et dans ma vie, ça a été salutaire pour tous les domaines de ma vie. Ça m'a ouvert tant de portes. Mais ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui existent maintenant en français, et on pourrait plutôt dire, mais il faut insister pour que tous ces livres, des bons livres, soient accessibles pour nous. Mais je le dis quand même, même pour avoir accès plus vite et moins cher, apprenez l'anglais ou l'allemand. D'accord ? Donc, et vous voyez, on peut même apprendre l'allemand en conjuguant le titre. Du bist der geliebte Mann, du bist die geliebte Frau, du bist der geliebte Junge, du bist das geliebte Mädchen. Et on peut faire nôtre cette parole, dire ces vérités. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc, c'était pour vous dire que je vous donne juste encore, pendant quelques instants, deux, trois idées de cet homme qui nous a précédés, qui est déjà parti auprès du Seigneur depuis des années. Deux, trois idées qu'il a dans cette idée d'enfant bien-aimé du Seigneur. Et je vous invite à lire ce que j'ai mis sur le Quoi de Neuf. Voilà un extrait de Henri Nouwen. Et vous allez reconnaître qu'en fait, ce n'est qu'une paraphrase de versets bibliques. Et je vous invite à noter dans votre tête ce que vous reconnaissez. J'entends une voix qui me dit « Je t'ai appelé dès le commencement. Tu es à moi et je suis à toi. Tu es mon bien-aimé, l'objet de mon affection. » Je t'ai façonné dans les profondeurs de la terre et j'ai tissé ton corps dans le ventre de ta mère. Je t'ai gravé dans la paume de ma main et caché à l'ombre de mes ailes. Je te considère avec une tendresse infinie et t'entoure de soins plus tendres que ceux d'une mère. J'ai compté chaque cheveu de ta tête et veillé sur tous tes pas. Je t'accompagne où que tu ailles et te protège quand tu te reposes. Je te donnerai une nourriture qui te rassasira à jamais et l'eau que je te ferai boire étanchera ta soif pour toujours. Je ne cacherai pas ma face devant toi. Je suis toujours à toi, comme tu es à moi. Tu m'appartiens. Je suis ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Où tu seras, je serai. Rien ne nous séparera jamais. Nous sommes un. Voilà la voix qui parle à notre cœur. Voilà ce que le Seigneur dit de nous, de chacun de nous. Voilà ce que c'est quand il dit que nous sommes ses bien-aimés, bien-aimés. Et c'est quelque chose qui finalement n'est pas facile à entendre. Enfin, là, je vous l'ai lu, vous l'avez entendu à côté de tête. Ce qui n'est pas facile à réaliser dans notre cœur, parce que dans notre monde, en nous et autour de nous, il y a tant de voix qui crient « Tu ne vaux rien, tu es moche, tu es inutile, tu es méprisable, tu n'es un rien, sauf si tu démontres le contraire. » Et nous faisons tant d'efforts pour démontrer le contraire. Et ces voix négatives, peut-être elles sont extrêmes, mais elles sont fortes et persistantes. Et il est facile de les croire. Et pour Henri Nouwen, c'est cela le plus grand des pièges, ou le plus grand des tentations, c'est le piège du rejet de soi. Parce que quand on lit les dangers spirituels dans la Bible, ou simplement d'autres dangers qu'on met facilement en évidence en disant le succès, la popularité, le pouvoir, on pourrait dire que ça représente des dangers qui pourraient nous faire dévier d'être des serviteurs de Dieu. Mais il dit que ce sont des dangers lorsque on veut utiliser ces directions pour répondre à notre problème de rejet de soi. C'est à ce moment-là qu'ils sont dangereux. Et donc, c'est beaucoup plus dangereux ou grave, la tentation du rejet de soi est le plus grand. Alors, prenons un exemple. Imaginons que quelqu'un nous accuse ou nous critique, ou que dans une situation, nous sommes rejetés, isolés ou abandonnés. Qu'est-ce que nous faisons ? Au lieu de nous réfugier dans ce que la parole de Dieu nous dit, de qui nous sommes, les deux façons dont nous réagissons habituellement, j'en fais partie, soit nous nous disons « cela prouve à nouveau que je ne vaux rien ». Au lieu de regarder la situation de manière réaliste ou avec un regard critique, je vais me culpabiliser. Non pas pour ce que j'ai fait de travers ou que j'aurais fait de travers, mais parce que je pense que je ne vaux rien et que finalement je mérite d'être mis de côté ou oublié ou abandonné. Voilà l'image d'une façon de réagir. Et l'autre façon, c'est celle de refuser toute critique et de répondre avec une attitude arrogante en faisant taire les voix qui nous agressent. Et Henri Nouwen dit, mais est-ce que ce n'est pas l'autre côté, l'autre facette du même rejet de soi, l'autre façon de réagir au sentiment d'avoir perdu toute valeur? En fait, trop gonflé ou tout dégonflé, j'ai perdu une vue juste de la réalité. Et donc, pour terminer, quelques éléments vraiment insuffisants pour nous aider à en fait prendre notre identité d'enfant de Dieu, d'enfant bien-aimé de Dieu. C'est que de réaliser que Dieu nous a choisis. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a démarré. Colossiens 1, 13 nous dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et un autre mot aussi, il nous a choisis, je dirais, par rapport à ce verset, il nous a pris. D'accord ? C'est Dieu qui a agi, il nous a choisis, il nous a pris et nous a mis en lui. Et de toute éternité, bien avant notre naissance, avant qu'on fasse partie de l'histoire, on existait dans le cœur de Dieu. Et donc, bien avant que nos parents nous ont admirés, ou que nos amis ont reconnu nos talents, que nos employeurs, nos collègues ont vus, nous ont encouragés pour nos dons, bien avant tout cela, c'est Dieu qui nous a vus, qui nous a choisis, qui nous a pris. Les yeux du Seigneur nous voient comme étant précieux, avec une beauté et une valeur éternelle. Et j'aimerais préciser le mot « choix », parce que ce mot « choix », toute notre vie, il a un certain sens. Et en fait, pour Dieu, ce n'est pas tout à fait pareil. Et je vais prendre un instant. Dieu nous choisit, mais cela n'exclut personne. Et je vous donne un exemple que j'aime beaucoup. C'est une étudiante dans une école biblique, je l'ai lu dans un livre, mais je ne sais plus lequel. Elle dit « Je sais que Dieu n'a pas de favori, mais moi, je suis sa favorite. » J'aimerais vous dire ce matin aussi que moi, je suis le favori du Seigneur. Et j'ose vous le dire, d'ailleurs ma prière c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez le dire, à cet instant même, que nous sommes le favori du Seigneur. Et je m'explique, dans notre vieille traduction, nous savons bien que Dieu ne fait point exception de personne, il ne fait pas de différence entre les personnes, il ne fait pas de favoritisme. Et en tant que père, je dois bien veiller à aimer chacun de mes enfants de la même manière. En tant qu'enseignant, je dois veiller à être tout à fait équitable avec chacun de mes étudiants. Voilà. Mais quand le Seigneur nous prend, nous choisit, fait de nous le sujet de joie, ce n'est pas en défaveur de quelqu'un d'autre. Donc dans ce sens, chacun d'entre nous est le favori ou la favorite du Seigneur. Et vous pouvez le dire. Méditez cela et essayez de le dire déjà dans votre cœur. Et donc c'est très important, être choisi par Dieu ne veut pas dire que les autres ne le sont pas ou ne peuvent pas l'être. Se savoir choisi n'est pas au détriment que d'autres que Dieu aurait rejetés. Et j'insiste là-dessus parce que c'est une notion difficile à saisir, parce que tous les exemples que nous avons dans notre vie, au niveau du choix, c'est quelque chose de compétitif. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a que des exemples négatifs où, lorsque quelqu'un est choisi, retenu, mis en avant, ben, ça en résulte pour des larmes, des frustrations pour d'autres. Et quand vous recevez dans le courrier la phrase « bon, tu n'as pas été retenu et ce ne va pas dire que tu n'étais pas bon, c'est juste qu'un autre a été un peu meilleur », ben, cette phrase, elle ne nous console pas du tout, parce que je n'ai pas le job, ou j'ai pas, quand je fais la course et que je ne suis pas le premier ou parmi les trois premiers, ben, d'autres sont meilleurs, etc. Et toute notre compréhension de ce mot, c'est par rapport à la compétition avec d'autres. Et c'est important que nous réfléchissions autrement dans le fait d'être choisis et que d'autres sont choisis par Dieu. C'est vraiment totalement différent, parce qu'au lieu d'exclure les autres, cela les inclut. Au lieu de rejeter les autres comme étant inférieurs ou ayant moins de valeur, ils sont acceptés, chacun est accepté dans son individualité, dans sa singularité. Ce n'est donc pas un choix compétitif que Dieu fait, mais c'est un choix de compassion, d'amour. Voilà, donc à réfléchir. Pour devenir le bien-aimé, il nous faut faire nôtre la vérité que nous sommes choisis, pris par Dieu. C'est notre fondation pour construire notre vie de bien-aimé. Et si nous l'oublions, si nous négligeons, on est exposé à cette tentation du rejet de soi qui nous sape les moyens de grandir en tant que bien-aimé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut reconnaître que c'est un combat spirituel, que ça peut prendre toute notre vie. Mais il faut dénoncer le Dieu de ce monde qui nous entoure. Reconnaître la manipulation, le pouvoir qui veut nous tirer vers le bas, les mensonges au sujet de notre identité. Et donc, de reconnaître que nous sommes blessés, mais de proclamer aussi qui nous sommes en Christ, et je l'ai déjà répété beaucoup de fois ce matin, je vous laisse le répéter, précieux aux yeux de Dieu, et appelez-le bien-aimé. Et la deuxième chose aussi qu'il nous faut faire, et nous sommes réunis ce matin, c'est d'aller trouver des personnes, aller à des endroits où on reconnaît notre identité d'enfant de Dieu, où elle est affirmée. Et il faut qu'on le fasse consciemment, et contre notre envie de laisser nos émotions ou nos sentiments, nos passions, nous prendre dans le rejet de soi. Et il faut que nous le fassions parce que nos frères et sœurs, nos amis en Christ, ils sont en route comme nous. Ils partagent notre humanité. Ils nous aiment avec un amour limité et imparfait, mais ils vont nous dire que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Enfin, troisième, dernier point, il nous faut tout le temps pratiquer la reconnaissance. Dire merci à Dieu de nous avoir choisis, et aussi dire merci à chacun qui nous le rappelle, qui nous aide à le comprendre, et développer une attitude de gratitude, c'est vraiment le meilleur moyen d'approfondir notre compréhension que nous ne sommes pas là par accident, mais par choix divin. Dieu nous a choisis. Et pour conclure, c'est qu'en faisant ça, en réalisant qui je suis, je peux aussi voir les autres autrement. Je peux aussi voir les autres comme des bien-aimés de Dieu. Et j'ai envie de leur dire, au lieu que je me sente meilleur ou plus précieux que quelqu'un d'autre, je réalise qu'être choisi par Dieu me fait regarder les autres aussi comme des bien-aimés de Dieu, qui ont besoin de le comprendre, qui ont besoin de s'approcher de Dieu et de le vivre. Jean 14, verset 2, Jésus a dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Il y a une place pour quiconque croit. Il y a une place unique, spéciale. » Donc, une fois que nous avons compris cela, nous devenons capables aussi de voir la valeur des autres et leur place unique dans le cœur de Dieu. Donc, encore une fois, il n'y a pas de compétition au niveau de l'amour de Dieu. Il nous inclut chacun comme nous sommes dans notre caractéristique. Et je dirais, c'est quand nous comprenons cela que nous pouvons aussi être à l'aise avec Dieu et avec les frères et sœurs. Et pour vous voyez ici quelques versets. En fait, dans le Nouveau Testament, le mot bien-aimé est utilisé de très nombreuses fois pour les frères et sœurs, pour s'adresser. Et vous avez ici quelques exemples. J'en lis qu'un. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est Paul qui parle aux Philippiens, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et donc, vous voyez, on reconnaît dans les frères que ce sont les bien-aimés de Dieu, et on voit aussi, du coup, que ce sont nos bien-aimés. On les aime aussi. Donc cet amour, c'est à la fois l'amour, on reconnaît qu'ils sont aimés de Dieu, et on les aime nous-mêmes. Que faire de tout cela? Alors je vous propose un exercice pratique cette semaine. Prenez donc quelques versets qui affirment notre position en Christ et relisons-les chaque jour de la semaine. Par exemple, vous pouvez partir du texte du Quoi de Neuf et noter les références et les retrouver dans la Bible, quelques-unes, et partir de là. Et aussi prendre du temps pour ce que moi j'appelle la prière méditative, c'est-à-dire faire taire ces autres voix et de prendre le temps dans la parole d'écouter ce que le Seigneur nous dit à nous personnellement, d'entendre cette voix dont nous avons parlé. Et un psaume candidat pour cela, c'est le psaume 145 que nous avons lu, avec lequel nous avons loué le Seigneur ce matin. Nous avons lu « Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles ». Et vous voyez, même dans ce psaume 145, on peut reconnaître, quand on va y passer du temps, que le Seigneur est là, tout son amour est là pour nous entourer. Il est dit là-dedans qu'il est plein de tendresse pour toutes les créatures, pour tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Amen.